C'est aujourd'hui le printemps. Il me semble qu'il y a à peine quelques jours, c'était Noël. Je ne sais pas si ça vous a fait la même impression. Mais le temps passe vite. Il y a quelques années, il me semble que c'était il n'y a pas très longtemps, sur Antibes, il y avait eu, je crois, à deux reprises, des orages surprises, des orages de grêle. Et pour ceux qui ne connaissent pas très bien la région, Antibes, c'est encore la ville des horticulteurs, des cultures sous serre. Et un orage de grêle, c'est pas l'idéal pour les serres en verre. Il avait fallu l'aide de l'armée pour nettoyer les dégâts, les serres complètement laminées et détruites, cassées par cet orage de grêle. Et en fait, c'est une image faible de ce qui attend les hommes pendant la période de la Grande Tribulation. Là, il est dit qu'il y aura des grêlons de près de 20 kilos. 20 kilos, ça fait lourd quand même. Vous imaginez un jerrycan de 10 litres. C'est le poids de deux jerrycans de 10 litres qui tombent du ciel. Je crois que ce sera pire que les serres cassées, ce sera toutes les voitures ratatinées, les toits percés. La Bible nous dit même que cette période, ce sera un moment où les gens chercheront à se tuer, mais ils ne pourront pas. La grande tribulation, c'est une certitude. Jésus a dit dans Matthieu 24, 21, parlant des derniers temps, il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Ça, c'est la première certitude et nous allons l'étudier au cours des semaines à venir. Mais avant de poursuivre l'étude de l'Apocalypse verset par verset, j'ai voulu prendre un petit moment pour vous convaincre que l'Église fidèle ne passera pas par la grande tribulation. Une autre chose est certaine, c'est que Christ va revenir. Vous vous souvenez du livre des Actes? Il y avait deux hommes en blanc après que Jésus ait dit à ses disciples: vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est dit qu'après cela, il y avait une nuée qui avait dérobé le Seigneur aux yeux des disciples. Et là, il y avait deux hommes en blanc, on pense que c'était des anges, qui se présentèrent à eux et leur dirent: vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Le retour de Christ est une certitude. Il y a bien d'autres passages dans la Bible. J'ai dit il y a quelques semaines qu'en fait, un verset sur 25 dans le Nouveau Testament avait un lien avec le retour de Christ. Une autre chose est certaine, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Vous pouvez vous y tourner, 1 Thessaloniciens 4. C'est page 232. Dans la Bible à la colombe, dans la deuxième partie du Nouveau Testament. Paul explique il parle de la résurrection, mais surtout au verset 16, il dit « Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Il ajoutait, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » On voit donc qu'il y a trois certitudes. La grande tribulation, une période de souffrance et de calamité, de cataclysme, comme le monde n'en a jamais connu encore. Le retour de Christ, l'enlèvement de l'Église. Ce qui est intéressant, c'est que tous les chrétiens ne sont pas d'accord quant à l'ordre de ces événements qui sont des certitudes. Il y a différentes opinions. Il y en a qui disent que l'Église ne sera enlevée qu'après la grande tribulation. Il y en a même d'autres qui disent qu'elle sera enlevée au milieu de la grande tribulation. D'autres qui disent qu'elle va être enlevée avant cette grande tribulation, et c'est ma position. Et nous allons voir les versets bibliques qui nous permettent d'avoir cette confiance, cette assurance. C'est important, nous allons en parler plus tard, mais c'est important que vous-même vous le sachiez et que vous connaissiez ces versets pour pouvoir en convaincre d'autres. On peut se dire, c'est pas très important, ce qui compte c'est bien sûr qu'on reconnaisse que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il s'est incarné, qu'il est ressuscité, que le salut n'est qu'en lui, ce sont des vérités. Mais on va voir qu'en fait, la compréhension de ces événements des derniers temps est aussi importante et qu'elle détermine bien souvent notre attitude dans le monde, notre attitude vis-à-vis de l'évangélisation de ceux qui nous entourent. Notre schéma, notre compréhension des choses, c'est que il va d'abord y avoir l'enlèvement de l'Église et que ça pourrait arriver à tout moment. Il n'y a pas d'événements qui doivent arriver avant cet enlèvement de l'Église. Ensuite, il y aura la grande tribulation. Ensuite, il y aura le retour de Christ sur terre. Le premier retour de Christ se fait dans les nuages, comme on l'a lu dans 1 Thessaloniciens, où il vient chercher ses élus, les chrétiens. Le retour de Christ à la fin de la grande tribulation se marquera par la victoire de la bataille d'Armageddon. Et là, Christ établira un règne de 1000 ans sur la terre, à la suite duquel il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel qui commenceront en quelque sorte l'éternité. Et ça, nous le verrons en étudiant la fin de l'Apocalypse. Et on étudie le livre de l'Apocalypse où un chiffre est bien présent, c'est le chiffre 7. Donc suivant là l'exemple d'un autre pasteur de Calvary Chapel, j'aimerais vous donner aujourd'hui 7 raisons pour un enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Première raison, c'est la prophétie de Daniel. Là, j'aimerais qu'on se tourne ensemble dans Daniel 9. Daniel 9, verset 24. C'est peut-être une des plus grandes prophéties de la Bible, ce qu'on appelle la prophétie des 70 semaines. Cette prophétie a été donnée à Daniel par l'ange Gabriel lui-même. Et voici ce qu'elle dit. Il est dit, 70 semaines ont été, c'est page 886 dans la Bible à la colombe, si vous avez une Bible bleue. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines, et là il est dit entre parenthèses dans 62 semaines, mais je préfère la version qui dit il y a, qui est en note d'ailleurs, jusqu'au prince Messie il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Prophétie dont nous avons déjà étudié le sens au début de notre étude du livre des Actes, mais j'aimerais simplement rappeler brièvement le mot qui est traduit par semaine est en fait le mot hébreu Shabua qui désigne ce qu'on appellerait peut-être en français une septaine, c'est-à-dire une série de 7 choses. Et dans le sens de ce passage, la plupart des commentateurs s'accordent à dire qu'en fait ça désigne une période de 7 ans. Donc 70 semaines, c'est 490 ans qui ont été fixés. L'ange s'adresse à Gabriel s'adresse à Daniel, et lorsqu'il dit « Sur ton peuple et sur ta ville sainte », il parle du peuple d'Israël et de la ville de Jérusalem. Daniel reçoit ce message en l'an 530 avant Jésus-Christ. Et lorsqu'il est question d'une promulgation, verset 25, de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, on pense que cette promulgation, c'est le décret dont il est question dans Néhémie, chapitre 2, qui était un décret signé par le roi de Perse, Artaxerxès, pour autoriser la reconstruction de Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit qu'entre le moment de ce décret et le moment où il y aura un prince Messie, il y aura 7 semaines et 62 semaines. 69 semaines au total, ça fait 423 ans. 7 fois 69, hein, égale 483. On verra en parlant de l'Apocalypse que les années bibliques étaient des années prophétiques, sont des années de 360 jours. Si on convertit cette durée de 483 ans en année solaire, de 365 en moyenne, en comptant les années bissextiles, on arrive à 476 ans. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque on prend la date du décret signé par Artaxerxès, ce décret a été signé le 14 mars 445 avant Christ. Si on ajoute ces 476 ans, on arrive à la date près au 6 avril 32 de l'ère chrétienne. Il y a des questions quant à la date de naissance de Christ. On pense qu'il n'est pas né à l'an zéro de notre ère, mais quelque temps avant. Mais il n'y a aucun doute, d'après les recoupements historiques et bibliques, que le 6 avril de l'an 32, c'est la date de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, sur un petit âne, comme il avait été prophétisé par Zacharie dans Zacharie 9:9. Donc il est question de 70 semaines qui sont établies par Dieu à partir du décret d'Artaxerxès jusqu'à ce que soit rétabli que pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, expier la faute. Mais il y a d'abord 69 semaines qui amènent à l'arrivée de Christ, du prince Messie, du verset 25, jusqu'au prince Messie. Verset 26, après les 62 semaines, il y aura, le Messie sera retranché. Ça, c'est une allusion très claire de la crucifixion de Jésus-Christ. Et puis, il y a ensuite question d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, qu'il fera, verset 27, une alliance, une solide alliance d'une semaine, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. En fait, c'est un peu comme si le chronomètre de l'histoire de Dieu s'était arrêté au bout des 69 semaines. Et on va voir, en étudiant la grande tribulation, que c'est comme si Dieu recommençait à mettre le chronomètre en marche pour la 70e semaine. Et l'avis de la plupart des commentateurs, c'est que la 70e semaine est encore un événement futur et que c'est la période de la grande tribulation. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser que cette prophétie s'est réalisée au jour près pour la venue du Christ Messie. Et on n'a aucune raison de douter que le reste de la prophétie va lui aussi se réaliser. Une chose essentielle à comprendre lorsqu'on étudie la prophétie biblique, c'est qu'il y a souvent une réalisation immédiate et une réalisation pour la fin des temps. La réalisation immédiate de cette prophétie d'un prince qui viendrait pour détruire la ville et le sanctuaire, c'est la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère, lorsque les armées de Titus ont détruit le temple et la ville de Jérusalem. Mais nous verrons en étudiant le reste de l'Apocalypse que cette 70e semaine, c'est encore un événement futur dont on peut connaître beaucoup d'éléments. Alors pourquoi je dis que c'est une raison pour laquelle l'Église va être enlevée avant la grande tribulation? C'est parce que l'Église, en fait, elle semble une parenthèse dans ce déroulement des choses. Dieu a commencé son chronomètre, les choses se sont déroulées jusqu'à la 69e semaine, l'apparition du Messie, sa crucifixion. Et c'est là que l'Église est née à la Pentecôte, après la mort de Christ sur la croix et sa résurrection. L'Église est totalement absente des 69 premières semaines. Il n'y a aucune raison de penser qu'elle va être présente dans la 70e semaine, et lorsque l'on va étudier le reste de l'Apocalypse, on va voir qu'il n'y a pas de mention de l'Église présente sur terre. Donc ça, c'est le premier élément qui nous permet de dire que l'Église ne sera plus dans le tableau. Première raison, la prophétie de Daniel. Et si vous avez des questions, on en reparlera dans nos études, où vous pouvez m'en parler. Mais c'est sans doute une des prophéties les plus importantes pour comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Deuxième raison, c'est le but de la grande tribulation. On a parlé déjà des tribulations comme les épreuves qui nous arrivent en tant que chrétiens. Nous vivons dans un monde qui est touché par le péché. Et nous avons tous des souffrances dues au fait que l'humanité est dans le péché. Nous avons aussi à faire face à des persécutions du fait que nous croyons en Christ. Nous annonçons sa parole. Nous avons la promesse que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Paul dit que personne ne doit être ébranlé dans les tribulations présentes parce que c'est ce à quoi nous sommes destinés. Donc les événements difficiles de nos vies, les crises, les conflits, toutes ces choses-là, ça fait partie des tribulations. Il faut bien comprendre une différence entre les tribulations et la grande tribulation. les tribulations, les épreuves, elles viennent de l'ennemi. Dieu peut les racheter et les faire concourir à notre bien et à ses plans. Mais la grande tribulation, c'est différent, c'est Dieu qui l'orchestre, c'est Dieu qui la dirige. Une des raisons de la tribulation, de la grande tribulation, c'est pour briser le peuple d'Israël, pour l'amener à la repentance. Le temps de la grande tribulation, c'est ce qu'on appelle, ce que Jérémie appelait le temps d'angoisse pour Jacob. Jérémie 37 dit « Malheur, car ce jour est grand, aucun autre n'est comme lui, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sortira sauvé. » La grande tribulation, c'est aussi destiné à punir les méchants. C'est un jugement des méchants, de ceux qui se rebellent contre Dieu, et non pas de l'Église que Dieu considère comme juste. Nous avons vu en étudiant les sept lettres aux sept églises de l'Apocalypse que les églises de tout temps ont des problèmes, mais à chaque fois, Dieu nous dit que si nous nous repentons dans quelque sorte d'église que nous soyons, on peut être vainqueur en lui. Mais l'église juste, l'église fidèle, malgré les péchés qu'il peut y avoir en nous, elle est considérée comme une épouse sans tache. L'Église n'est pas considérée comme méchante par le Seigneur lorsqu'il envoie cette grande tribulation. Deuxième élément, donc, le but de la tribulation, c'est de punir les méchants, c'est pas de juger l'Église. Un troisième élément, c'est le caractère de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu ne change pas. Il n'est pas homme pour changer d'avis ou pour se repentir, dans le sens où il changerait de décision. Et vous vous souvenez que dans la Genèse, il y avait cet épisode de Sodome et Gomorre. Et si on peut regarder Genèse 18. Le péché était tel à Sodome et Gomorre que Dieu voulait la détruire. Mais Abraham, qui avait une bonne compréhension du caractère de Dieu, disait au verset, par exemple au verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant ? Et il commence un espèce de marchandage avec le Seigneur. Il lui dit, il y a peut-être 50 justes dans cette ville. Est-ce que tu vas les faire succomber et tu ne vas pas pardonner cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Et l'Éternel lui dit, si j'en trouve 50, alors je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Puis Abraham continue, et s'il y en avait 45, pardon, s'il y en avait 45, est-ce que tu continuerais à les sauver? Et le Seigneur dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Et puis il descend, et s'il y en avait que 20, non, c'est bon, pour 20 non plus, je ne ferai rien. Il descend jusqu'à, s'il y en avait dix, je ne ferais rien. Mais finalement, ce que le Seigneur doit faire, c'est de dire à Lot, Abraham et à Lot, le neveu d'Abraham qui habitait la ville de Sodome, et qui était injuste malgré sa tentation d'être ouvert au péché, il lui dit de partir avant de détruire la ville de Sodome. Donc le Seigneur, pour une personne, est prêt à retenir sa main de jugement. Donc si la grande tribulation c'est pour juger, s'il y avait un seul juste, il retiendrait sa main. Donc le caractère de Dieu nous dit que l'Église ne peut pas être encore là et subir la grande tribulation. Un autre point, c'est que Dieu ne veut pas toucher l'Église, et s'il n'enlève pas l'Église avant la grande tribulation, nécessairement, l'Église va subir cette tribulation. Donc, on verra, mais on peut déjà regarder Apocalypse 9. On verra qu'il y a des épreuves qui démarrent par des coups de trompette, et notamment dans le chapitre 9, versets 3 et 4, il est dit « De la fumée des sauterelles sortirent sur la terre, il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. » Donc on voit qu'en fait, sur la terre à cette époque, les seules personnes qui seront protégées de la grande tribulation, ce seront ceux qui ont été marqués du sceau de Dieu sur le front. Et ce sceau de Dieu, il en est question deux chapitres avant, au chapitre 7, au verset 3. On va voir qui c'est qui aura ce sceau sur la tête. Chapitre 7, verset 3. « Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Donc là, il est clair que ceux qui reçoivent ce sceau, ce sont ces 144 000 personnes d'Israël, et non pas l'Église. Une chose très importante lorsqu'on étudie l'Apocalypse et les événements des derniers temps, c'est de ne pas confondre l'Église et Israël. C'est vrai que les chrétiens, en tant que croyants en Dieu, en tant que leur foi, sont des héritiers d'Abraham, qui était le père de la foi. Mais bien que certains soient pas d'accord, il est pour moi très clair dans la Bible, notamment en étudiant Romains 9, 10, 11, que Jésus n'a pas terminé avec son histoire avec le peuple d'Israël en tant qu'identité ethnique. Le peuple d'Israël, c'est le peuple dont le Seigneur s'occupe jusqu'à la fin des temps. Et il n'y a plus de division entre les chrétiens et les juifs, mais le peuple juif est toujours une réalité dans la fin des temps. Donc, ces 144 000, ce sont des juifs, des descendants des 12 tribus d'Israël. Et une chose est certaine, c'est que dans Thessaloniciens 5, 9, on peut regarder, 1 Thessaloniciens 5, 9, page 233. Dieu, verset 9, 5, 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. On avait vu aussi en étudiant l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, 10, et en tant qu'église de Philadelphie, c'était un type de l'église fidèle. Le Seigneur Jésus lui-même déclarait, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » ces passages et d'autres passages nous assurent que le Seigneur ne veut pas nous faire subir cette colère. Et donc, là encore, la seule explication possible, la seule solution possible, c'est que l'Église soit enlevée avant le début de cette grande tribulation. Matthieu 25. Si vous voulez vous y tourner, Matthieu. Un des grands passages sur la fin des temps par Jésus lui-même. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Un passage qui indique en fait que l'enlèvement de l'Église ne peut pas avoir lieu après la grande tribulation. Cet événement prend place après l'Église, tous les bons, ils n'auraient plus rien à juger. Ça, ce seront ceux qui, pendant la période de la grande tribulation, viendront à lui, ce seront les bons. Et là, avant de commencer le millénium, il y aura un jugement du Fils de l'homme, où il séparera les bons des méchants. Ça, c'est un autre élément. Un sixième élément, c'est le fait que l'imminence du retour de Jésus nous indique qu'il n'y a pas d'événement qui précède. Parce que ces événements qui précèdent, les événements clés qui pourraient servir de repère, on pourrait se dire, tant que ceci n'est pas arrivé, j'ai pas à me faire de soucis, je peux continuer à vivre dans le péché et à m'amuser. Dès que tel événement arrivera, alors là, je sais que non. Un passage intéressant, vous le savez, c'est 2 Pierre 3:8 qui parle du fait que des gens se disent, oh mais on parle du retour de Christ et rien ne s'est jamais produit depuis des 2000 ans, pourquoi s'affoler? Deux Pierre 3:8. On peut commencer même au verset 4 ou 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Vous avez promis qu'il allait retourner, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Rien n'a changé, il y a toujours le péché, il n'y a pas de punition. Et ils diront en effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Référence à Noé et au grand déluge qui a submergé la terre qui existait alors. Mais, par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Donc il dit que le fait qu'il ne soit rien passé, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas intervenir, et il promet même que les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement, de la perdition de ceux qui ne croient pas en Dieu. Et il rappelle une chose importante, pour eux et pour nous. On ne doit pas oublier un point capital, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur est en dehors du temps, il voit les événements, donc lorsqu'il est dit qu'il ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, ça va venir. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore arrivé que ça ne va jamais arriver. Il y a plusieurs signes qui nous parlent du retour de Christ en général, de cette fin des temps. Une des premières choses, c'est que dans les événements de la fin des temps, dont nous allons parler en continuant l'étude de l'Apocalypse, on voit par exemple le fait qu'il va y avoir des sacrifices dans le temple de Jérusalem. Or, le temple de Jérusalem, il a été détruit en l'an 70 de notre ère. Pour qu'il y ait un temple dans Jérusalem, il faudra qu'il soit reconstruit. La première chose aussi, c'est que Israël doit être restauré en tant que nation. Il y a une prophétie du prophète Ézéchiel qui parle des os qui se retrouvent ensemble. C'est des ossements qui se remettent à vivre, qui se mettent des muscles, des tendons, qui forment des corps. Et ça s'est déjà passé le 14 mai 1948, lorsqu'Israël, après des siècles de dispersion, a été enfin réuni en terre promise, en Palestine. Là, c'est intéressant parce que souvent, on lit la Bible, puis après on lit le journal, et on fait pas le rapport entre les deux. Et pourtant, lorsque Israël se reconstitue en tant que nation, c'est la Bible qui s'actualise, c'est la Bible qui est en plein devant notre visage. Pendant la guerre du Golfe, c'était intéressant de voir que la carte qu'on montrait à la télévision, en fait, c'était la même que celle qui est derrière, qui est à la fin de nos Bibles. Les signes du retour de Christ sont en route. Il y a des choses encore qui doivent se passer avant que le Christ revienne sur terre, mais l'enlèvement de l'Église, il n'y a pas de condition. Jésus pourrait arriver maintenant pour enlever son peuple, ou ce soir. Par contre, on verra que pour que Christ revienne physiquement sur terre, il y a l'idée de, on verra en étudiant la parabole de Daniel, la réunification de l'Europe qui est en cours. Il va y avoir aussi l'arrivée de l'Antichrist. On va parler de ce personnage dont il est parlé dans plusieurs endroits de la Bible, qui sera un homme qui, apparemment, avec un grand charisme, arrivera à établir la paix au Moyen-Orient. Et puis, au cours de son règne à Jérusalem, il va se révéler comme étant envoyé par le diable. Il va essayer de se faire adorer dans le temple reconstruit. Suivra une invasion d'Israël par, sans doute, la Russie et d'autres nations. Et puis, finalement, la grande bataille d'Armageddon et le retour de Christ. Donc ces signes sont... On sent que quelque part on est au milieu, mais en ce qui concerne l'arrivée de Christ dans les nuages pour reprendre son Église, il n'y a pas de délai à attendre. Il était dit... On verra que, en étudiant l'Apocalypse, on pourra savoir que le retour de Christ se passera à la fin de cette période de 7 ans, qui sera inaugurée justement par l'enlèvement de l'Église. Il y aura toutes ces catastrophes, tous ces événements qui donneront aux gens 7 ans pour se repentir avant la destruction des impies par Christ à la bataille d'Armageddon. Par contre, Jésus a dit dans Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, parlant de de la venue proche du Seigneur pour prendre son Église, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. On voit donc qu'il y a deux choses. Il y a l'enlèvement de l'Église, qui est une date inconnue, et puis l'événement du retour de Christ sur terre, à la fin de la période de la Grande Tribulation, qui lui sera précédé de signes avant-coureurs immanquables. Donc, l'enlèvement de l'Église ne peut pas se produire après la Grande Tribulation, parce qu'on aurait plein de signes qui nous montreraient que c'est la Grande Tribulation. Parce que une chose est sûre, c'est que on se plaint beaucoup, on dit que rien ne va plus dans le monde, mais lorsque on aura lu ensemble les événements de la Grande Tribulation, on verra qu'on n'a encore rien connu, comme le disait Christ. Et on saura que c'est la Grande Tribulation. On dira, c'est pas parce qu'il est difficile de trouver de l'emploi, ou il y a des nouvelles maladies, non, on verra ensemble que ça va être beaucoup plus dramatique, beaucoup plus radical. Donc, l'imminence du retour prouve que ça peut pas se produire après, ça peut ne se produire qu'avant. Rien, maintenant, le Christ peut revenir à tout moment, pour prendre son Église, pas venir sur terre. Il faut bien distinguer ces deux événements encore une fois. Et le septième événement, pour nous dire que l'enlèvement de l'Église se fera avant la Grande Tribulation, c'est qu'il y a plusieurs passages dans la Bible où il est question du retour de Christ comme d'un voleur. Et je ne sais pas si vous avez déjà été cambriolé, mais en principe, un cambrioleur ne laisse pas un petit message vous disant « je reviendrai demain à 6 heures ». Le propre du voleur, c'est de frapper quand on ne s'y attend pas. De frapper quand on est en vacances, de frapper quand on s'est absenté, il va téléphoner pour savoir s'il y a quelqu'un, et il frappera lorsqu'on s'y attend le moins. On va lire ensemble encore, page 233 dans la Bible à la Colombe, 1 Thessaloniciens 5. Versets 1 et 2. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur, le retour de Christ pour son Église, viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur dans la nuit, encore une fois, c'est pour surprendre. Et ça devrait nous mettre en garde contre beaucoup de sectes, de mouvements religieux qui disent connaître la date exacte du retour de Christ. Les témoins de Jéhovah disent par exemple que Christ est revenu sur terre secrètement en 1914. Et on voit que lorsqu'il va revenir, il va se faire connaître de tous les hommes. Et alors que les témoins de Jéhovah disent que Christ ne s'est fait connaître qu'aux responsables de la tour de garde à Brooklyn. Ils ont beaucoup de mal avec ces passages. Le Christ va revenir comme un voleur. Donc, pour prendre son Église. D'un seul coup, il est dit que les gens seront laissés en bas et d'autres seront partis. Il y aura des gros titres dans les journaux disant que, je sais pas, 10% de la population est mystérieusement disparue. Et ce sera une indication pour tout. Pour tous les hommes, sur toute la terre, de savoir que si quelqu'un fait le rapprochement avec la Bible, ah mais il y avait cette histoire, il y a mon voisin qui me parlait de cet enlèvement de l'Église, qui disait qu'ils allaient venir et qu'après, Donc, les gens auront 7 ans pour se repentir pendant la Grande Tribulation, avant la fin d'Armageddon et du retour de Christ sur la terre comme roi et seigneur. Il va revenir prendre les choses en main, ça c'est la bonne nouvelle aussi de savoir ça. Parce qu'on se dit, où est Christ, où est Dieu, s'il y a un Dieu, pourquoi il y a tant de souffrance? Donc Christ va revenir mettre les choses en ordre. Mais avant ça, il va prendre son Église. On pourrait continuer, mais je veux pas, j'ai peut-être déjà assez embrouillé les choses comme ça. Je veux juste récapituler. Pourquoi est-ce qu'on peut savoir que l'Église va être enlevée avant la grande tribulation? D'abord, la prophétie de Daniel. L'Église n'est pas mentionnée dans les 69 ou dans la 70e semaine. Ensuite, le but de la grande tribulation, c'est de punir les méchants, pas l'Église. Troisièmement, qu'est-ce qu'elle était le troisième point? C'était... Oui? Quelqu'un? Le caractère de Dieu. Pour un seul juste, il sauverait encore le monde. Quatrième? C'était... Voilà, le fait que seuls seront protégés pendant la grande tribulation les juifs, les 144 000 juifs. Et on sait que Dieu ne réserve pas l'Église à la destruction, mais au salut. Donc il peut, pour sauver, il faut qu'il sauve avant. Parce que pendant la grande tribulation, il n'y aura que les 144 000 juifs qui seront sauvés. Cinquièmement, le jugement des brebis et des boucs. S'il enlevait l'Église à la fin de la grande tribulation, il n'y aurait plus personne à trier. Sixième, c'est que si l'enlèvement ne se fait pas avant la grande tribulation, il n'y aura plus d'imminence. On ne pourra pas dire que Dieu peut arriver pour son Église à n'importe quel moment. Et septièmement, c'était quelqu'un. C'était le fait qu'il vient comme un voleur. L'étude de la prophétie, c'est quelque chose que l'Église a souvent négligé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses et d'interprétations. Et qu'en fait, pour se faire sa propre idée soi-même, ça demande un effort. Et souvent, l'idée, c'est de dire, oh, il y a des chrétiens très instruits qui pensent d'un côté, des chrétiens très instruits qui pensent d'une autre façon. Qui suis-je, moi, pour me mêler de leurs affaires, quelque part? En fait, la Bible nous donne des prophéties pour notre bénédiction. Vous vous souvenez, au début de l'Apocalypse, il a dit que celui qui étudie la prophétie sera béni. Le danger, c'est que souvent, lorsqu'on étudie les prophéties, c'est qu'on peut avoir simplement des connaissances théoriques, des dates, des repères, des versets, des passages. Et puis, on peut utiliser ces passages pour se battre avec ceux qui ne pensent pas comme nous. Mais non, mais je te dis, les jugements des boucs et des brebis, ça prouve bien. Et le danger, c'est justement que lorsqu'on étudie ces choses, on se remplisse la tête et qu'on reste avec un cœur vide. Pourquoi est-ce qu'il est si important de comprendre que l'Église va être enlevée avant la grande tribulation? C'est cette conviction qui a permis à l'Église de soutenir les persécutions qui ont fait des millions de morts au début du 1er siècle. On a parlé de 6 millions de morts, comme les Juifs pendant l'Holocauste. 6 millions de chrétiens, dont beaucoup de Juifs, qui ont été martyrisés pour leur foi, qui ont été crucifiés, donnés en pâture aux lions, sciés en deux, etc. Ils avaient une autre perspective que les gens qui les entouraient. Ils savaient que les choses matérielles, ce n'est que pour un temps. Si nous avons la certitude que le Christ pourrait revenir cet après-midi, ça remet les choses en perspective. On se fait moins de soucis pour savoir qu'on doit... On doit repeindre une pièce dans un appartement, qu'on doit entretenir sa voiture, se faire du souci non constructif. Toutes ces choses peuvent être de bonnes choses, mais est-ce que ces choses présentes occultent les réalités ultimes? Et c'est ça le danger. Nous sommes tellement pris dans le quotidien, dans le matériel, que des fois on dit, oh oui, les prophéties, c'est bien, c'est pour. Mais en fait, si nous les prenons à cœur, si nous les comprenons, alors elles changent toute notre optique. Les choses matérielles deviennent moins importantes. Le Seigneur a parlé à quelqu'un d'entre nous cette semaine pour dire justement ce message. Ne pense pas aux choses matérielles, n'en fais pas une idole. Pense à l'Évangile, pense à ceux qui nous entourent. Pensons à ceux qui nous entourent. Dans le même passage de Thessaloniciens, Paul nous disait « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance et du salut. » On ne veut pas être des chrétiens somnambules. Il y a plein de distractions dans le monde. Plein de choses qui peuvent nous omnibuler, prendre toute notre énergie, nos ressources, nos pensées. Le Seigneur dit non, ne faites pas ça. Le fait de croire que Jésus-Christ peut revenir à n'importe quel instant, ça libère. Ça libère de ces soucis qui n'ont pas le droit d'être des soucis dans notre vie. Ça nous permet de nous abandonner à l'amour et à la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que, et Paul s'insurgeait contre ceux qui disaient « Le Seigneur va revenir, j'arrête de travailler, je vais m'asseoir sur la montagne, je trouve à manger chez les autres. » Non. Mais ça veut dire qu'on a un juste sens des priorités. Nous sommes invités à racheter le temps. J'ai rencontré vendredi dernier une jeune chrétienne qui me disait elle va à l'église depuis quelques mois seulement dans une autre église. Elle me disait je sais que je ne suis pas très courageuse pour parler de ma foi encore, j'ai encouragé. Elle a dit mais je sais que le retour de Christ est proche, que le temps est court. Et donc cette conception, ça lui faisait dire, donc je veux m'investir, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps. Et si nous avons cette vision des choses, nous dire que Christ peut revenir à n'importe quel moment, il y a peut-être des choses que l'on veut faire pour le Seigneur, et on se dit, oh j'aurai bien le temps. Demain je parlerai à ma voisine, ou demain j'irai inviter telle personne. Mais si on a cette conviction qu'à n'importe quel moment, dans un claquement de doigts, le Seigneur peut nous enlever, et on se dit, ah oh zut, alors je suis enlevé, chouette, je suis sauvé, mais oh, tout ce que j'aurais pu faire. C'est maintenant qu'il faut avoir cette conception. Matthieu 6, 19, passage bien connu, « Ne vous amassez pas des trésors sur terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est cette anticipation du retour de Christ, de l'enlèvement de l'Église à tout moment, qui a fait que les premiers chrétiens ont répandu l'Évangile dans tout le monde d'alors. L'histoire de l'Église Calvary-Chapelle nous dit aussi que c'était une des aspects fondamentaux de l'enseignement, c'était l'imminence du retour de Christ. Et ça permettait aux gens justement de s'abandonner à la volonté de Dieu et à partager l'Évangile. L'enlèvement, la certitude de l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation et l'évangélisation vont ensemble. Si on se dit l'évangélisation pourra la faire après tel ou tel signe, on ne va pas la faire. Mais si on se dit que ce soir, c'est peut-être le dernier moment où je vais pouvoir parler à cette vieille dame de mes voisines pour essayer de la convaincre, alors là, nous allons le faire. Sinon, on dira, à quoi bon? C'est chouette si on est chrétien. On sait que on sera enlevé, on échappera à cette tribulation. Et là encore, je vous invite à, si vous ne l'avez jamais étudié, à vraiment lire et à venir étudier avec nous la description de cette grande tribulation, c'est quelque chose d'absolument terrible. Si on est chrétien, on sait qu'on évitera cette période terrible. Et on se dit, mais moi, si je ne suis pas chrétien, alors moi, je vais subir cette terrible épreuve. Oui. C'est pas juste. Mais si, c'est juste. Dieu doit punir les méchants. Mais oui, mais moi. Eh bien, toi, viens à lui. Si vous avez peur de cette grande tribulation, la peur est le commencement de la sagesse. Et la peur de la tribulation, on disait dans l'ancien temps, c'est un prédicateur de feu et de soufre. Il essaye de faire peur aux gens avec l'enfer. Si l'enfer est une réalité, c'est pas faire peur, c'est avertir. Et si vous n'êtes pas encore averti, je vous avertir que si vous ne venez pas à Christ, vous subirez cette grande tribulation. La solution donc, c'est de vous repentir et de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Nous allons prier. Seigneur, merci pour tes promesses. Merci Seigneur, parce que tu les révèles, même si des fois il faut étudier soi-même et se laisser guider par ton esprit. Tu veux nous avertir, Seigneur. Tu veux nous conforter. Tu veux que nous qui sommes chrétiens, Seigneur, nous ayons confiance que tu vas prendre soin de nous-mêmes. Si cette grande tribulation arrive bientôt, tu nous enlèveras. Et Seigneur, tu veux aussi avertir ceux qui ne croient pas encore en toi que le temps est maintenant, qu'aujourd'hui est le jour du salut. Si vous n'avez jamais encore accepté le Seigneur dans votre cœur, je vous invite à faire cette prière avec moi si vous sentez que Christ vous appelle, qu'il est là, qui frappe à la porte de votre cœur, comme nous l'avons vu dans l'étude de l'église de Laodicée. Il se tient, il ne forcera pas la porte. Il veut que ce soit vous qui ouvriez la porte de votre cœur. Si c'est votre cas, je vous demande de prier en silence cette prière. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, que je ne cherche qu'à faire ma propre volonté, souvent en dépend des autres, par égoïsme, par recherche de mon propre intérêt, sans égard à toi, Seigneur. Seigneur, je veux faire demi-tour, je veux revenir, je veux aller vers toi. Seigneur, je te demande, je veux t'ouvrir la porte de mon cœur. Et je te demande, Seigneur, de venir dans ma vie et de prendre la place du roi dans ma vie, Seigneur. Seigneur, aide-moi par ton Esprit Saint à vivre la vie que tu as pour moi, séparée du péché, faisant ta volonté. Seigneur, je te remercie parce que tu me promets de venir dans mon cœur lorsque je l'ouvre ainsi. Guide-moi, Seigneur, tout le reste de ma vie, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont prié cette prière, peut-être, qui lèvent la main? N'oubliez pas que aujourd'hui est le jour du salut. Je vous invite à vous lever. Et à chanter un chant. Nous allons chanter le calzoé. Quelqu'un a un chant à proposer qu'on connaît, qu'on connaisse assez bien. Oh, je t'aime. Non, alors un autre. Ta bienveillance. Ta bienveillance, ô Seigneur, dure à toujours. Tes bontés ne sont jamais brisées. Chaque jour tu les donnes, toujours nouvelles, immense est ta miséricorde. On reprend. Bienveillance au Seigneur dure à toujours. Tes bontés ne sont jamais épuisées. Chaque jour tu les donnes, toujours nouvelles. Immense est ta fidélité, oui, ta fidélité. Amen. Que le Seigneur vous donne une bonne semaine et n'oubliez pas la formation Palao et le pique-nique de l'heure d'été. Amen.